Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine en compagnie de Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Un certain nombre de projets et investissements avaient été annoncés il y a quelques mois par les autorités de la RDC spécifiant qu'ils seraient réalisés dans le pays. Il s'agit notamment d'une usine de montage d'une firme automobile annoncée par le ministre de l'Industrie ou encore l'extension de la ville de Kinshasa appelée Kitoko. À cela, il faut ajouter l'intention annoncée mardi dernier par le conseiller économique de l'ambassade de Belgique pour plusieurs entreprises belges qui envisagent d'investir dans divers domaines en République démocratique du Congo. Ces entreprises visent notamment l'agriculture et l'énergie, la valorisation énergétique du gaz méthane dans le lac Kivu et les mines. Que faut-il pour arriver à concrétiser ces projets? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis à nom de par Polydor Basunga, réalisé par Kiria Ambatia. Et quant à moi, Pierrot Elamegi, c'est un grand plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et c'est pour nous un réel plaisir de vous tenir compagnie. Et pour discuter de ces sujets, nous recevons dans ce studio Monsieur Sylvain Hagenorf. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous dis aussi merci pour m'avoir associé à cette émission.
Vous êtes économiste et enseignant d'université et nous parlons de ces questions d'investissement. Quelle est d'abord votre réaction quand on annonce autant d'intentions d'investissement dans le pays?
Il faut dire d'abord que toutes les nations vivent autour des investissements. Mm-hmm. Puisque lorsqu'on parle des investissements, c'est en fait les actions ou l'action principale de tout gouvernement. Ça ne peut que réjouir chaque citoyen et nous-mêmes lorsque le gouvernement dit qu'il a l'intention de pouvoir lancer une série d'investissements. Mm-hmm. Donc c'est une satisfaction totale. Mais maintenant la question se pose, comment ces investissements seront gouvernés?
Voilà, c'est une question d'intention. Mais on sait que la RDC a connu beaucoup de problèmes en termes de climat, d'affaires, d'instabilité. Comment aujourd'hui on peut arriver à concrétiser tout cela alors qu'on a encore beaucoup de difficultés sur le plan de l'instabilité, même si l'instabilité politique n'est pas comme elle était dans le temps?
Il faut d'abord reconnaître deux ou trois choses. La première chose, c'est que nous avons dans ce pays un problème d'organisation institutionnelle. Mmh. Et lorsque vous lisez beaucoup des rapports que le Fonds monétaire international dresse par rapport à la gestion des investissements publics dans différents pays du monde, la RDC se retrouve parmi ces nations qui ont un problème sérieux au niveau des institutions politiques qui sont censées exécuter les différents investissements. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut reconnaître aussi un problème au niveau de l'homme politique congolais. Ça veut dire qu'au niveau de la gouvernance des finances publiques destinées aux investissements dont nous faisons allusion aujourd'hui. Mm-hmm. Puisque vous le savez, depuis la Deuxième République avec Mobutu et même la Troisième République, nous avons un certain nombre d'antivaleurs qui ne permettent pas que les investissements publics répondent aux problèmes auxquels, en réalité, ils sont voués. Troisième chose qu'il faut relever, c'est pratiquement les systèmes mis en place par la politique nationale. Qui ne permet, vous venez ici de parler du cas des problèmes de climat des affaires. Mm-hmm. Et vous savez que la transparence dans la gouvernance des investissements, c'est un élément important. Et je pense que tout au long de cette émission, nous allons revenir sur ces enjeux que pour moi, je considère comme une contrainte aux beaux investissements dans ces pays.
Mais quand on a vu le président de la République, Félix Tshisekedi, prendre un certain nombre de mesures, que ce soit même dans la volonté politique exprimée, dans le cadre des luttes contre la corruption, le travail de l'inspection générale des finances, il y a eu l'agence de lutte contre la corruption, ce sont quand même des éléments qu'on peut considérer qui peuvent accompagner cette volonté réelle de pouvoir assainir le climat des affaires et instaurer la transparence nécessaire dont les partenaires ont besoin.
Pour tout observateur averti, depuis l'entrée en fonction de l'actuel président de la République, Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, que je salue en passant, en fait, effectivement, nous voyons une volonté politique de changer les choses.
Okay.
Et M. Pierrot, je dois le dire, et les auditeurs et auditrices de la radio Capi doivent nous comprendre, C'est qu'en fait, le chef de l'État s'est retrouver devant un défi auquel il doit opérer des mesures de réponse. Lorsqu'il rencontre les experts du Fonds monétaire international et même de la Banque mondiale, les premières des conditions qu'on lui donne, c'est d'abord la restructuration de son économie, aussi l'amélioration des conditions politiques institutionnelles en RDC. Puisque n'oubliez pas, je viens de dire ici tantôt, que le plus grand défi au Congo, c'est en fait comment nous utilisons l'argent de l'État pour satisfaire aux besoins de la nation. C'est ça le plus grand problème. Mmh. Effectivement, nous voyons aujourd'hui l'inspection générale des finances avec tout le travail qu'elle réalise, bien sûr sous le leadership du chef de l'État, mais aussi, moi j'appelle la justice aussi à entrer dans l'IG. Pourquoi ? Puisque je dois ici dire, toutes choses restent égales par ailleurs, on ne peut pas avoir l'investissement attendu si nous ne mettons pas du sérieux. C'est comme ça, il faut appuyer ce que le gouvernement congolais est en train de faire et surtout spécialement ce que l'IGF est en train de faire. Pourquoi ? Puisqu'il faut boucher la poche des finances publiques de notre pays qui a été troué pendant longtemps. Puisque le problème ici, et nous le dirons tout au long de cette émission, c'est que est-ce que ces investissements vont répondre aux problèmes du Congo ? Et pour que ces investissements répondent aux problèmes du Congo, il faut que l'affectation corresponde, n'est-ce pas, à la destination des fonds recherchés.
Alors, c'est pourquoi...
Et c'est à ce niveau, excusez-moi, c'est à ce niveau-là que moi j'en appelle à la responsabilité des ministres des plans et des finances. Puisque c'est là où les choses se dessinent. Mm-hmm. Et comme vous le savez très bien, le pays, ou notre pays, la RDC, a un problème suffisant autour de la question de la gouvernance des finances publiques.
Alors, quand vous avez insisté sur la destination, aujourd'hui, quels devraient être les secteurs prioritaires en termes d'investissement aujourd'hui ?
Je prends d'abord le premier secteur, ce sont les infrastructures. Vous savez, quelqu'un avait dit à l'époque, là, le Congo sans les chemins de fer ne vaut qu'un penny. Et à un moment donné, on avait dit qu'il nous avait ingéré. Mais non, toutes les nations évoluent avant tout avec les voies de communication. Nous n'en avons pas. Et ça, c'est sur tous les plans. Deuxième chose, c'est l'énergie. Puisque si nous voulons être une nation émergente, comme les gens les chantent, ça fait plus de 5 à 10 ans, nous chantons l'émergence de la RDC, mais est-ce que nous avons des routes ? Nous avons des chemins de fer ? Est-ce que nous sommes capables de faire déplacer un bien X de la destination A vers la destination B facilement? Non. L'énergie. Puisque, écoutez, nous irons vers l'émergence et même vers les investissements qui donnent les fruits au pays. Si, et c'est les massifs, nous sommes capables de nous plonger dans la production. Ça veut dire dans l'industrie. Et voilà. Ça demande l'énergie. Okay. Troisième secteur important, c'est l'agriculture. Et quand je parle de l'agriculture, j'y annexe aussi l'environnement. Et pratiquement, je prends tous les premiers secteurs, l'élevage aussi. Donc pour moi, ces trois secteurs sont importants, mais n'oubliez pas, dans les contextes spécifiques de l'Est du pays, il faut aussi voir la sécurité. Et même dans les grandes agglomérations, même comme, comme Kinshasa. Et il faut dire aussi la création d'emplois, qui est un élément important, mais la création d'emplois est la conséquence logique de la combinaison des trois différents secteurs que j'ai précités.
Merci beaucoup. On va revenir à vous. Les auditeurs sont nombreux à vouloir commenter ces sujets. Je rappelle encore que vous pouvez continuer à les discuter sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Nous parlons de ces différents investissements annoncés, mais comment arriver à concrétiser cela? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et Jérémy vient de nous rejoindre dans cet échange et il est à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Jérémy, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour également à notre invité. Je pense que l'annonce est une chose et l'applicabilité en est une autre. Hein. Il faut certes saluer le projet donc des autorités de notre pays. Cependant, la matérialisation est au dépend, n'est-ce pas, de ce qu'on dispose. Alors, si le bâton qui doit tuer le serpent n'a aucun pouvoir d'agir, alors je me dis, y parvenir serait peut-être utopique ou chimérique. Alors là, je viens maintenant à dire, mais comment est-ce qu'on peut arriver ? Comment arrivera-t-on à réaliser des projets de grande envergure avec ce budget que nous avons, n'est-ce pas, très médiocre et qui reste présagé, n'est-ce pas, des petites réalisations. Alors là, c'est ça les nœuds du problème. Alors moi, je veux qu'à ce stade, qu'on puisse d'abord n'est-ce pas, sensibiliser toutes les entreprises, n'est-ce pas, qui est donc œuvrant pour le portefeuille de l'État, pour pouvoir, n'est-ce pas, jouer correctement leur rôle pour que l'État congolais arrive à matérialiser ses actions. Parce que vous savez que notre budget est vraiment en dents de scie.
Ici, Jérémy, on se focalise sur des investissements annoncés, hein, avec des partenaires multilatéraux. Nous avons parlé d'une usine de montage de véhicules. On a parlé des Belges. Alors, c'est un peu différent. Parce que là, c'est pas vraiment l'État congolais, peut-être qui met la main dans la poche, c'est les autres qui amènent leurs capitaux. Alors comment peuvent-ils arriver à réaliser cela?
Oui, c'est ce que je voudrais en venir pour dire que vraiment, c'était un geste à saluer, hein, pour les entrepreneurs belges qui ont donc eu cette idée de pouvoir venir investir dans notre pays, surtout dans ce secteur énergétique, voire agriculture, mines, etc. Moi, je dis que bon, c'est un geste à saluer, certes, mais nous avons toujours connu des situations lorsque ces gens viennent pour investir dans ce pays, mais il semble que le peuple congolais ne tire pas profit. C'est peut-être pour leur compte. Et alors là, nous en interpellons. Nous voudrions que, bien sûr, lorsqu'ils viennent pour investir dans ces domaines aussi précis, surtout moi, je mets l'accent sur l'énergie et surtout l'agriculture. Surtout l'agriculture, parce que vous savez que aujourd'hui, on semble négliger ce secteur agricole pour peut-être s'attaquer aux mines, etc. Vous savez que le secteur agricole est un secteur de grande envergure. Il faut, lorsque les gens viennent, il faut qu'ils puissent, n'est-ce pas, amener le peuple congolais, n'est-ce pas, à entrer dedans, au moyen de leurs investissements qu'ils amènent, pour que le peuple congolais tire aussi profit, n'est-ce pas, pour que l'économie de notre pays ne puisse pas subir des fissures comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Là, il y a aussi un problème. Même si on investit, il faut savoir par où sera canalisé ces biens agricoles. C'est ça le problème. Donc, il y a aussi un problème des infrastructures. Il faut que l'État congolais commence dès maintenant à pouvoir baliser les choses correctement pour que, quand les investisseurs arrivent, qu'ils ne puissent pas être devant un fait accompli, on peut avoir des choses comme on a vu avec les actions de Boukan Dalonso, qui on a des biens, mais pour les canaliser, c'est un problème. Donc moi, je trouve que maintenant, là, il faut que l'État congolais, les investisseurs, lorsqu'ils arrivent, travaillent aussi, et l'État congolais puisse aussi être là-dedans pour voir qu'est-ce que lui doit faire a priori pour que les investisseurs ne puissent pas connaître de freins ou des entraves dans leurs actions. Là, je mets d'abord l'accent aussi sur ce fait agricole et deuxièmement sur l'énergie. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez, il se pose un problème d'énergie dans notre pays. Comment est-ce que les investisseurs doivent-ils œuvrer pendant que l'énergie pose problème dans notre pays? Il faut maintenant qu'on puisse, n'est-ce pas, à partir des moyens que nous avons, qu'on puisse développer une politique adéquate pour que l'énergie... Nous sommes dans un pays où nous avons des grandes rivières. Jérémy, si on vous a suivi,
vous insistez sur la matérialisation, mais surtout que ces investissements profitent à la population. C'est ça vraiment ce que vous dites. Il y a aussi Christian qui est sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, qui estime, lui, pour sa part, qu'au regard des données en présence depuis le projet 5 chantiers, 100 jours, il croit que la volonté politique, sociale, les patriotismes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait aujourd'hui, hein, pour que ce genre de projet profite à la population, s'il n'y a pas une vraie volonté de mieux utiliser les moyens. Il a dit, c'est pas les moyens qui manquent, mais comment ces moyens sont-ils utilisés? Et Kalo Kalonji, vous êtes en Boujimaï, au Kasaï Oriental. Bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs. Kalo, vous êtes avec nous, bonjour. Des petits soucis des lignes avec Kalo Kalonji, Niamazi Freddy Migo qui nous écrit aussi sur la page Facebook, lui dit non, mais ça risque de rester tout simplement des chapelets de bonnes intentions parce qu'il y a eu déjà certains projets promis qui n'ont pas encore commencé. Alors, Augustin Boyo qui est à Boindé dit la même chose. que tous ces grands projets sont au bénéfice des Congolais que nous sommes, il faudra penser directement à poser les actes. Et pour lui, la situation démographique actuelle du pays demande assez qu'on puisse avoir des projets qui sont étudiés jusqu'en profondeur pour que cela profite à la population. Alors, comment réagissez-vous, Sylvain, à Guénor? Vous avez suivi hein, notre ami Jérémy. Dans tout ce qu'il a dit, il a insisté sur la question de l'énergie et la question de l'agriculture. Mais pour lui, il s'inquiète quand même qu'il y ait beaucoup de projets. On peut les initier, comme au Bukangalonzo, on en a beaucoup débattu. Mais en définitive, il n'y a pas un impact sur la vie sociale de la population.
Je voudrais saluer M. Jérémy.
Oui, à partir de Lubumbashi, je salue aussi M. Christian, je salue Carlo Kalundi, mais aussi Namazi et Augustin. En fait, lorsque vous suivez tous ces auditeurs, vous vous rendez compte qu'il y a une petite préoccupation. Les gens ne sont pas rassurés du fait que effectivement le gouvernement peut arriver à réaliser ces investissements tels que ça devait se passer. Puisque quand vous suivez par exemple monsieur Jérémy qui dit l'annonce est une chose, mais il faut travailler plus sur la matérialisation. C'est pratiquement tout ce que les autres auditeurs ont dit. Et là, moi, je suis pas d'accord avec eux. Dans quel sens? C'est vrai qu'à un moment donné, nous avons passé une situation un peu chaotique dans ces pays où, effectivement, les aspirations profondes des peuples congolais étaient déçues par le fait de la mauvaise pratique politique. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, je ne voudrais pas imposer mon point de vue à tous les Congolais par rapport à la volonté du chef de l'État actuel à pouvoir changer les choses. Nous voyons effectivement l'IGF en train de travailler pour corriger certaines choses, en fait que le climat d'affaires soit aéré et que la bonne gouvernance soit institutionnalisée. Je pense que nous pouvons encourager les investisseurs qui viennent chez nous apporter des fonds pour reconstruire la nation congolaise. Moi, je pense que c'est ce qui est important. Donc, chacun là où il est, c'est maintenant question de travailler et d'accompagner la politique du chef de l'État dans le sens de pouvoir vendre positivement l'image de la RDC afin que ceux qui veulent placer leurs capitaux dans les différents secteurs dont ils ont d'ailleurs eux-mêmes cité, puisque quand vous suivez par exemple monsieur Jérémy qui a insisté sur l'énergie et l'agriculture, et d'ailleurs lui il place l'agriculture comme priorité des priorités, eh bien nous avons besoin que ceux qui veulent investir chez nous soient encouragés et non pas découragés. Et là, je voudrais aussi dire quelque chose. Par rapport à ces investissements, Monsieur Pierrot, il faut que les auditeurs soient fixés. Ce sont des capitaux étrangers qui viennent aider la RDC dans les différents domaines de la vie nationale. Et donc, nous, citoyens congolais, nous avons cette obligation de les rassurer par l'effet de notre participation au changement de la classe politique dans ces pays. Puisque le plus grand problème que moi je pose, et même pas moi, c'est le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, d'ailleurs, en tant que grand partenaire des nations, oblige à ce que, pour bénéficier même de certains financements, il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait la démocratie. Ce sont les éléments-là. Puisque je prends l'exemple de firmes de montage de véhicules qui sera par exemple financé par le Royaume de Belgique. Vous pensez que ces gens viendront dans ces pays s'ils ne trouvent pas de sérieux? Moi, je donne trois choses pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. La bonne gouvernance. Il y a la transparence dans la gestion des finances publiques ou des fonds investis. Mais aussi le sérieux des noms ministères qui seront chargés de ces projets. Puisque effectivement, quand vous suivez les auditeurs, ils relèvent des questions essentielles. Dans quel sens? Dans le sens où la RDC va avoir pour un investissement 100 000 $. Mais en réalité, dans la réalisation de l'investissement, on ne trouve pas la valeur de 100 000. On trouve 10 000. Et c'est là où il n'a pas les sérieux. Et le plus souvent, maintenant, ça déçoit les gens. Donc, je dis en bref que les auditeurs, effectivement, vous avez raison de douter, mais je crois que pour cette fois-ci, nous devons plus travailler dans le sens de positiver l'image de notre pays, en fait, d'attirer plus d'investisseurs dans notre pays.
Voilà, il y a Maître Edmond, par exemple, qui est sur la page Facebook. Pour lui, il insiste sur la question de la fiscalité. Il dit que nous avons un système fiscal qui pose beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui que le président de la République accentue la question de réforme fiscale pour accompagner les investissements? Il y a Ben qui nous écrit de Kananga, par exemple, pour lui, voilà, il revient encore sur la question des réformes fiscales. Il estime qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs, bien sûr, mais notre fiscalité ne permet pas à ce que les investissements puissent sortir le Congo de la pauvreté. Alors, il y a notre ami Kaikai Kabasele qui nous écrit sur la page Facebook. Il dit, pour arriver à concrétiser ces différents projets RDC, il faut avoir de moyens conséquents et surtout, il faut une éthique hein, au niveau gestionnaire, des gestionnaires congolais dans ces différents partenariats. Voilà. Alors, vous avez suivi cette question qui est revenue deux fois, cette préoccupation sur les réformes fiscales entre c'est proposé par Maître Edmond, mais aussi par Benjamin qui est à Kananga.
Effectivement, j'enseigne les cours de fiscalité et j'ai toujours dit aux étudiants c'est qu'il y a effectivement une importance capitale de la réforme de notre système fiscal. Mmh. Il est assez lourd et il ne permet pas le développement économique. Mmh. Et vous savez qu'il y a un grand auteur qui a dit trop d'impôts tue l'impôt. Mais aussi, aujourd'hui, les grandes nations, et ça surtout avec l'OCDE en Europe, quand vous voyez la façon dont ces gens ils travaillent maintenant sur la fiscalité, c'est en fait une fiscalité pour booster le développement économique des nations. Mmh. Mais malheureusement chez nous, en fait, notre fiscalité tue l'économie. Et donc, effectivement, monsieur, disons, Maître Edmond, que je salue aussi en passant, et aussi monsieur Ben, que je salue aussi, ils ont raison. Donc, il faut rapidement, au niveau de notre pays, que les réformes au niveau fiscal puissent accompagner les investisseurs. Puisque, en fait, si nous n'arrivons pas à donner une garantie que les capitaux que ces investisseurs viendront investir chez nous aura des intérêts, eh bien, ils ne reviendront pas là.
Alors, on va écouter Sylvain qui est à Kisangani. Sylvain, merci de nous avoir rejoint dans cet échange autour des investissements. Bonjour, Sylvain. Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, on a des petits soucis, hein, des lignes, je crois bien, avec Kisangani. Je rappelle encore à nos auditeurs que 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existaient pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Alors, nous avons Sylvain cette fois-ci, la ligne s'est améliorée avec Kisangani. Sylvain, bonjour.
Bonjour Radio Capé.
Alors, on vous écoute autour de cet échange sur les investissements.
Oui, nous disons que nous sommes en face de multitudes de projets qui souffrent de leur réalisation. Nous, de bonnes intentions, mais dans les concrets, il n'y a rien. Mm-hmm. C'est pourquoi nous demandons que l'État cesse d'épiloguer là-dessus. Il faudrait dire peu pour en faire plus. Donc, nous avons enregistré un grand nombre de projets durant cette année, mais dans les concrets, rien ne se manifeste. Donc, nous sommes vraiment fatigués avec des commentaires là-dessus et nous demandons à l'État de réaliser d'abord les projets. Il n'y a pas longtemps ici, nous avons fait le débat sur les projets, je ne sais pas, Gilets Jolis. Nous avons fait le débat sur les projets de la lutte contre, je sais pas, la pauvreté. Tout ça, c'est on est où la santé de la réalisation de ces projets-là se trouve à quel stade. Mm-hmm. Donc, c'est fatigant et nous recommandons que l'État prenne ses responsabilités à main au lieu de nous faire fatiguer avec les discours. Mais dans la réalisation, en fait, nous nous retrouvons en fait au lit des morts. Mm-hmm.
Merci beaucoup, Sylvain. Pour vous, vous êtes fatigué qu'on annonce encore des projets. Il faut passer à l'action. Vous avez évoqué les débats que nous avons eus dernièrement sur le projet Tchilegelou qui était lancé ici à Kinshasa pour l'amélioration de la voirie à Kananga, à Kinshasa, dans d'autres provinces. Vous évoquez également le programme de lutte contre la pauvreté qui a été lancé par la présidence. Pour vous, il faut passer à l'action. C'est ce qui est très important, mais pas encore annoncer d'autres projets d'investissement. Maintenant, je crois que nous avons retrouvé Kalo Kalonji qui est en bougement. Kalo, bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Et la question des différents investissements promis est au centre de notre échange. Quel est votre point de vue?
Oui, l'annonce de plusieurs multitudes de projets, et si tous sont des projets ambitieux, on peut toujours les louer et les encourager. Mais néanmoins, je me suis toujours posé autant de questions, à savoir, c'est comme si nos autorités qui sont à la base de ces annonces n'arrivent pas à nous dire clairement qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à mon humble avis, je connais que pour un projet, il y a aussi des cycles de projet. Il y a la phase de préparation, il y a la phase de mise en œuvre et la phase de clôture ou opérationnelle même d'un projet. Mais pour que ces phases puissent être réalisées, il y a quand même certaines contraintes. Je peux citer entre autres les contraintes d'ordre financier, par exemple. Et puis, il faut voir aussi quels sont les prestataires que qu'il y ait une réalisation plutôt de ces projets. Mais moi, je me suis toujours dit, nos autorités se limitent seulement au niveau de la préparation et ils nous annoncent directement, voilà, nous allons faire telle ville, Kinshasa, Kitoko, nous allons faire une usine de montage automobile, mais sans nous préciser le temps, la faisabilité et tout ce qui entoure le financement, et là nous pouvons être d'accord avec eux. Mais je me suis toujours rappelé d'une histoire d'un politicien au Kassai qui m'a dit une fois, pour me dire que vous ne savez pas, nous aussi en politique, nous avons ce que nous appelons la gestion des émotions. Et l'une des stratégies des politiciens qui vise à faire croire à la population que nous faisons, mais en réalité on ne le fait pas, seulement pour leurs intérêts. Vous allez voir que pour une route, ils vont étaler autant de sable, autant de craviers, mais pour faire, je ne vois pas les gens la faire. Regardez par exemple depuis le régime passé, nous avons eu ce projet que Kabila a annoncé, autant des écoles, autant des hôpitaux, mais le principe ici de la continuité de l'État. Pourquoi nos autorités ne peuvent pas terminer d'abord avant avec ce qu'on avait déjà commencé, qui nous a mené dans des histoires où on n'a pas vraiment, où on ne connaît pas la tête, où on ne sait pas quoi faire. Moi, je demande à nos autorités de se concentrer. Quand vous parlez de Chile, même ici au Kassai, nous en avons marre. Depuis qu'on a annoncé, je vous dis, il n'y a qu'un caniveau, s'il vous plaît, qu'on a déjà fait, même pas un kilomètre. Mais je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas la notion de temps? Parce qu'en termes de projet, il faut le temps. Il faut aussi la faisabilité, il faut le financement. C'est comme si on annonce pour nous donner de bonnes intentions.
Merci beaucoup, Kalo. Vous avez rejoint les autres qui ont parlé de la question de l'intention. On annonce, c'est une question émotionnelle, mais pourquoi on ne passe pas à l'action? Il faut quand même qu'on sache dans combien de temps les différents projets vont-ils être exécutés, ça va prendre combien de temps, comment pouvoir les évaluer. C'est un peu tout ça. Vous vous posez des questions autour de ça. Merci beaucoup. Marie-Paul, merci de nous avoir appelé. Vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Comment arriver à concrétiser ces différentes annonces des projets d'investissement?
Oui, merci pour la question monsieur le journaliste. Il faut d'abord aller vers les fondamentaux, dire que la République démocratique du Congo est un pays en développement. Et les projets de développement, voire des investissements, sont parmi les moyens indispensables pour susciter, pourquoi pas booster, les développements de ces pays. Et ces développements, ces projets de développement ou des investissements sont d'une grande importance pour notre pays. Mais les combles dans notre pays, c'est que la RDC RDC, c'est un pays qui est qualifié de pépinière de projets morts-nés. Parce que si nous passons, nous passons en revue toutes les promesses, tous les projets qui ont été annoncés, et je pense qu'il y a bien beaucoup de projets qui ne sont pas exécutés, et ce qui fait que la RDC soit justement qualifiée de ce dont je venais de dire une pépinière des projets morts-nés. En fait, il y a plusieurs raisons qui font que beaucoup de projets ne soient pas concrétisés dans notre pays. Parce que nos politiques sont en train d'initier des projets et avec ce sont des bons projets, on ne dit pas que ce sont des mauvais projets, mais ils comptent le financement ou la réalisation de ces projets-là par des investissements étrangers. Ils comptent, ils initient, ils font des planifications des projets et ils entendent que les étrangers viennent financer, viennent apporter de l'argent. Ce qui est un écart très significatif parce que les étrangers ne vont pas continuer à venir s'évasionner. Alors, de mon point de vue, je pense que les autorités de la RDC doivent initier des projets sur les moyens propres. C'est-à-dire, on doit tenir compte des non-moyens, en fait que la plupart des projets qui sont initiés par ces gens-là soient concrétisés. Au lieu de commencer à compter sur les investissements étrangers, parce que vous n'êtes pas à ignorer que les investissements étrangers viennent après avoir réuni un certain nombre de dispositifs ou d'éléments qui vont convaincre ces gens-là de venir. Et parmi ces éléments, il faut d'abord que la sécurité soit assurée. Il faut qu'il y ait le climat des affaires. Il faut également qu'il y ait la transparence et la démocratie. Et aussi longtemps que ces éléments ne sont pas réunis, on ne peut pas voir les étrangers venir investir. Et voilà pourquoi on doit commencer à attaquer d'abord ces points et puis tenir compte et des non-moyens ici. Parce que les projets que ces politiciens sont en train d'initier, c'est pour assurer le développement de la RDC. Et ils doivent tenir compte de tous ces éléments pour que nous puissions arriver à réaliser, ou le pays arrive à réaliser des projets qui sont des projets bel et bien, des projets de développement, mais confrontés par ces problèmes que je venais de soulever de manière un peu laconique, qui démontrent en suffisance que nos gens ont des procès de bonne intention sans pourtant réaliser. Alors que les pays ont besoin d'avancer et la population a beaucoup de problèmes. Mmh. Et tous ces problèmes-là doivent être étayés sur base de projets. Et ce sont des programmes publics ou des politiques publiques qui doivent être réalisés pour trouver solution à ces problèmes-là au lieu de verser la population dans des démagogies.
Merci. Alors, merci beaucoup, Marie-Paul.
On ne peut pas gérer la République sur base des démagogies.
Merci beaucoup. Marie-Paul, vous estimez qu'il faut plus privilégier les projets à capitaux congolais, ça veut dire des financements sur fonds propres plutôt que des promesses, des financements qui viennent de l'extérieur. L'État devrait fournir beaucoup d'efforts pour financer avec ses propres moyens, et c'est ce genre de projets qui peuvent conduire au développement. Franck, vous êtes à Vienne, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à amis Pierrot, bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés, bonjour à ceux qui vont parler et aussi à tous vos collègues au studio.
On vous avait suivi, hein, notre ami qui estime, lui, que c'est pas bien de pouvoir privilégier des investissements extérieurs, autant mieux fournir beaucoup d'efforts pour avoir des investissements locaux, et c'est comme ça que c'est là peut apporter le véritable développement.
Oui, merci beaucoup. Je salue notre compatriote Marie-Paul Lapassa et je vais compléter ce qu'il a déjà placé. Je crois que par rapport à ce que nous disons, il faut d'abord qu'on les rappelle encore que pour se développer ou pour développer un pays, une nation, il faut arriver à planifier. Après avoir planifié, il faut arriver à exécuter et matérialiser tout ce qui a été planifié. Et pour y arriver, il faut d'abord de la volonté politique et aussi de la discipline au niveau de la gestion. Mais seulement chez nous, si nous devons regarder comment ça s'est fait, on peut facilement dire que si la République démocratique du Congo pouvait se développer seulement rien que sur base des promesses faites ici et là, ou des bonnes lois promulguées, notre actuelle République démocratique du Congo serait déjà très avancée en développement et se trouverait même parmi les deux ou les trois pays les plus industrialisés de la planète. Déjà, c'est pour objecter que chez nous, je crois que nos politiques confondent le fait d'avoir une intention, une bonne intention abstraite, de pousser au développement et d'arriver à faire développer. Donc on ne doit pas seulement s'arrêter à dire que nous voulons faire, nous allons faire, mais quand vous avez dit, on suppose que vous avez planifié, quand vous êtes préparé, alors il faut arriver à matérialiser. Donc tout ce que nous dénonçons, c'est ces écarts-là entre le dire et le faire. Ça, c'est un problème. Et si nous devons regarder tout le gouvernement qui se succède depuis les années de Mobutu, on ne fait que nous faire des promesses. Je ne vais pas aller fouiller dans les années de Mobutu parce que là, nous étions encore jeunes. Mais si je dois me référer à un passé récent de 18 ans de régime du sénateur Aziz Joseph Kabila, il y a eu des gammes de promesses, si on peut peut-être énumérer quelques-unes. Entre 2012 et 2017, on nous a promis 5000 écoles à raison de 1000 écoles par année. On nous a promis la construction de 145 hôpitaux de référence à raison d'un hôpital par territoire. On nous a promis 54 kilomètres de route, alors qu'il y a des provinces comme les Bandundu, les Tronso Bandundu, Bongata, se trouvent dans un état où on ne sait même plus si on peut appeler route. On nous a promis la construction des barrages, Kakobo, Lakatende. On nous a promis la construction des cimenteries dans les Tchopo. On nous a promis des constructions des installations aéroportuaires dans nos provinces. On nous a promis la construction du port en eau profonde à Banana. Mais mon ami Pierrot, si nous devons regarder comment nous sommes en train d'être gérés, est-ce que vraiment on peut d'abord nous faire ne plus qu'un rapport en guise de continuité d'État par rapport à toutes ces promesses-là? Et avec l'actuel gouvernement, aussitôt arrivé aux affaires, il y a eu le fameux projet de 100 jours avec des promesses faites. Est-ce que de nos jours, on peut ne plus que nous faire le bilan de ce qui a été réalisé par rapport à toutes ces promesses faites pour les 100 jours? Qu'est-ce qui a été sorti des caisses de l'État? Qu'est-ce qui a été réalisé? Et qu'est-ce qui reste encore à être réalisé? Mon ami Pierrot, tout ça c'est parce que chez nous, les gens pensent que la réelle politique doit s'arrêter à des publicités. Quand on fait une publicité, quand on fait une promesse, il y a des compatriotes qui se mettent à acclamer une promesse faite déjà 10 fois, qui n'a jamais été réalisée. Et quand nous autres, observateurs, analystes, nous venons objecter, il y en a qui pensent que nous sommes contre elle. Non! Je crois que les interpellations doivent aller de part et d'autre. D'abord à nos gouvernants, ils doivent cesser de prendre tout un peuple pour naïf. Parce qu'on ne peut pas toujours faire des promesses qu'on ne réalise pas. Et le peuple que nous sommes, nous devons aussi cesser de nous mettre à acclamer pour des politiciens qui nous choisissent.
Alors, ça dit qu'il faut...
Une promesse qu'il n'a jamais réalisée.
Merci,
et quand il arrive à la deuxième promesse, vous mettez à acclamer. Ça ne va pas.
Ah, ça dit qu'il faut un réveil.
Chez nous, c'est la volonté politique et la détermination, puis la loyauté dans la discipline de la gestion.
Voilà.
Donc, on doit changer parce que...
Merci beaucoup, Franck. Merci.
Pas seulement se développer sur base des paroles et des promesses.
Merci beaucoup, Franck. Ça dit qu'il faut aussi un travail d'éveil des consciences de la population. Il faut ce travail de la société civile de pouvoir dire aux politiques, voilà ce que vous avez promis. Quand on promet, cela veut dire qu'il y a déjà une planification qui va être exécutée pour la matérialisation de cela. Mais chez nous, on promet plus. Alors, Maître Edmond, vous gardez la ligne. Vous êtes en Bandaka. On revient dans ce studio, Monsieur Sylvain Aguenorf. Vous avez suivi les compatriotes qui se sont encore exprimés. Il y a cette inquiétude autour de promesses, des réalisations. Marie-Paul est allé plus loin. Lui, il a évoqué même le fait que l'État devrait plus mobiliser des recettes et se concentrer sur des investissements locaux. Quelle est votre réaction?
Oui, merci. Je voudrais saluer M. Sylvain de Kisangani, en fait, qui a relevé un élément important. Il faut, en tout cas, asseoir ces différents projets d'investissements étrangers sur la bonne gouvernance. Et M. Kabasele a repris un élément important, l'éthique. L'éthique de l'homme politique, l'éthique du gouvernant congolais. Puisque c'est là où le pays est à genoux. J'ai suivi M. Franck de Vienne, que je salue aussi, qui revient d'ailleurs aussi sur le même élément. Par exemple, lorsqu'il soulève la question du discours populiste des hommes politiques, mais dont, dans la réalisation, il y a une souffrance ou même il n'y a rien qui s'est fait, effectivement, ça pose un problème au niveau de la responsabilité du gouvernant politique congolais face aux défis que le pays affronte. Aujourd'hui, nous parlons des investissements. Et moi, je vous ai dit, je voudrais vraiment le dire aux auditeurs, c'est que, effectivement, la problématique de la gouvernance des investissements doit intéresser tout le monde. Et je suis d'accord avec Franck de Vienne, qui effectivement insiste sur le comportement que doivent avoir les citoyens face au discours des fois populistes. Pourquoi cet écart entre les différentes promesses d'investissement d'avec les réalisations, effectivement, déçoit le peuple. Mais il faut que les gens se rendent compte que les investissements viennent pour satisfaire les besoins réels d'une nation, de la société. Et c'est là où, effectivement, nous avons des problèmes. Il a soulevé la question des promesses avec le régime Kabila. Je ne voudrais pas y revenir. Et moi, je pense aussi, quelque part, nous, citoyens, nous avons cette responsabilité. Monsieur Pirot, vous avez ici relevé la responsabilité de la société civile. Il y a monsieur Kalundi, je voudrais vraiment revenir sur son élément, puisqu'il a soulevé quelque chose de très important. Lorsque la République démocratique du Congo met à place les différents projets, est-ce que les phases sont respectées? Puisque, effectivement, de la conception à la formation des projets, on passe à l'exécution, mais le suivi. Je vous ai dit au début de cette émission, et c'est là où il y a un danger, c'est que on vous dit que nous allons investir 200 millions de dollars dans le secteur de l'énergie. Et ça reste dans les discours politiques. Puisque nous sommes en face d'une population, des fois, qui, politiquement et citoyennement, n'est pas mieux bâtie pour suivre les pas des hommes politiques. Monsieur Pirot, le principe de la démocratie, c'est que les citoyens doivent participer absolument dans la gouvernance de la cité, par le suivi. Et c'est là où il faut que les gens se disent qu'ils sont aussi responsables de la non-exécution de certains investissements promis par des hommes politiques, lorsque eux-mêmes ne se mettent pas à surveiller ces hommes politiques. Puisque les politiciens aiment les populations naïves, comme M. Franck l'a dit, une population qui est acclamiste et ne fait pas les suivis, et bien ça avance. Alors, je voudrais aussi aller rapidement sur ce que mon ami Marie-Paul l'a dit, de Kisangani, je les salue aussi. En fait, il a soulevé un élément important. Les investissements étrangers, selon lui, apparemment, n'est pas important. Et c'est ce qu'aussi Franck aussi a dit, quand vous avez lu les messages qu'il a lancés sur Facebook. Mais non. Nous sommes ici dans l'image d'un pays à voie de développement qui nécessite les investissements étrangers pour pallier au déficit de ses finances publiques internes. Et c'est dans ce sens-là, on ne peut pas dire que la RDC n'a pas besoin des investissements étrangers. On en a besoin. Mais le danger, effectivement, M. Franck a essayé de soulever ça, lorsque, par exemple, on finance la construction d'une usine de montage de véhicules, mais on va retrouver l'argent en train de construire des prisons. C'est là, en fait, le cas de figure de certains pays pauvres, c'est-à-dire des pays à besoin de financement ou à besoin de capitaux. Des fois, lorsque un investisseur vient, vous voyez que le gouvernement prend l'argent pour maintenant faire autre chose. Effectivement, ça pose un problème. Et c'est comme ça, les gens ne savent pas comprendre pourquoi, des paroles populistes, on n'a pas un résultat attendu. Puisque tout simplement, un investisseur vient, effectivement, il décaisse de l'argent à l'État congolais ou à un État X. Mais comme l'État est à besoin de capitaux, on prend l'argent pour financer d'autres secteurs. La finance publique, en réalité, on parle de détournement. Et c'est ça la situation, les cas de figure des pays pauvres, entre autres nous, les pays, nous les Congos. Donc, il faut effectivement que les citoyens soient vigilants. Lorsque les hommes politiques ou les dirigeants politiques disent que je vais faire ceci, il faut maintenant le suivi et l'accompagnement des citoyens. Au début de cette émission, nous avons dit le travail que l'IGF fait, pour lequel, d'ailleurs, entre parenthèses, je demande à ce que tous les citoyens puissent soutenir. Voilà un peu ce que j'ai dit à ce niveau. Et moi, je pense que nous avons ce devoir de soutenir les investissements étrangers dans ces pays.
Alors, Maître Edmond, vous êtes en Bandaka. Sur la page Facebook, vous avez évoqué tout à l'heure la question de réforme fiscale comme un des préalables pour accompagner les investissements en RDC. Maître Edmond, bonjour.
Oui, bonjour à Bio Capé, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Moi, je pense que, en ce qui me concerne, logiquement, j'ai soutenu le projet. Nous avons besoin que les investisseurs viennent dans ces pays pour que nos frères et sœurs, il y a ceux qui chôment, puissent également trouver de l'emploi. Mm-hmm. Mais comme vous l'avez dit, moi, j'ai posé des préalables, notamment liés aux différentes réformes juridiques et fiscales. Avec l'arrivée du droit au WADA que nous avions, qui est entré en vigueur le 12 septembre 2012, je pense que il y a quand même des règles souples qui peuvent permettre aux investisseurs de mieux œuvrer au Congo. Mais les problèmes qui se posent, c'est d'abord le problème fiscal qui revient au droit interne. Et nous avons une multiplicité d'impôts, de taxes à tous les niveaux, au niveau national, provincial, local, urbain. Et ce qui pose un problème, donc il y a trop de tracasseries fiscales. Et puis, il y a aussi un problème de sécurité judiciaire, juridique, parce que lorsqu'il y a des entreprises, il y a toujours des procès, il y a toujours des petits conflits avec notre système de justice qui n'est pas vraiment bien assis. Et puis, caractérisé par la concussion et la corruption, je pense que les investisseurs, surtout les étrangers, n'accepteront pas de venir travailler dans ces systèmes. Voilà pourquoi moi, j'ai demandé que le chef de l'État, nous sommes très contents de différents projets qu'il a initié avec les partenaires étrangers, mais préalablement, il doit d'abord se miser à pouvoir former, essayer un peu de supprimer certaines règles qui sont rigides, les rendre souples pour permettre aux étrangers de venir investir. J'ai suivi même l'un de nos amis qui m'ont précédé, qui disait qu'il faut que l'État puisse investir des capitaux de l'État. On n'en disconvient pas, mais l'État a beaucoup de charges. Je pense que l'État est en train de se miser plus sur la sécurité, la tranquillité de la population, mais l'État, il n'est pas interdit à l'État de pouvoir inviter les investisseurs. Mais c'est question à l'État de pouvoir assouplir les règles fiscales, les impositions pour permettre aux investisseurs de pouvoir venir s'installer au pays.
Merci beaucoup, Maître Edmond. L'État, dans la configuration actuelle, a besoin des investisseurs, mais il revient à cet État de pouvoir harmoniser le cadre légal, le cadre juridique pour assurer la sécurité aux investisseurs. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi vous insistez beaucoup sur la réforme fiscale, parce qu'il faudra que notre fiscalité soit adaptée aujourd'hui avec les droits au WADA. Et comme ça, ça peut permettre à ce que beaucoup d'investisseurs viennent et pouvoir consolider ce qui s'est fait déjà. Merci beaucoup, Edmond. Retournons ici à Kinshasa avec vous, Christian, bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Christian.
Merci Pierrot. D'entrée de jeu, je dirais qu'au regard des données en présence, c'est-à-dire les projets que nous avions vus dans ce pays, les projets 5 chantiers et les projets 100 jours, et je crois que la volonté, le problème majeur aujourd'hui, c'est plus la volonté politique et la volonté sociale, c'est-à-dire le patriotisme et l'intérêt général. Mmh. Parce que c'est en fait ces deux éléments qui demeurent la clé de voûte pour, n'est-ce pas, la concrétisation de tout projet de développement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les problèmes de moyens dans ce pays ne se posent pas. Mmh. Parce que s'ils se poseraient, nous n'aurons pas aujourd'hui décrié le fait qu'il y a eu des tournements par rapport à tel ou tel autre projet. Et donc cela a été démontré plus d'une fois. Que le plus grand problème aujourd'hui, c'est qui empêche justement la matérialité des projets, c'est plutôt l'utilisation même de ces moyens, des moyens que l'on disponibilise. Et vous entendrez qu'aujourd'hui, s'il y a un voleur qui vole, par exemple, à Zando, vous entendrez qu'il a volé un polo ou une poulet. Mais poser la question lorsqu'un un politique vole, eh bien, c'est des millions. Donc, allez-y comprendre que ce n'est pas un problème des moyens, c'est plutôt un problème beaucoup de la volonté, mm-hmm. la volonté sociale. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, comme André le dit, que la volonté est créatrice du devoir, mais aussi créatrice de l'obligation. Nous pensons que s'il y a la volonté politique, s'il y a la volonté sociale de ceci de servir le peuple, nous pouvons arriver à bout de tous les projets. Mm-hmm. Au-delà de ça, je voudrais également revenir sur ce que Maître Dumont a dit. Non, Maître Dumont, moi, je pourrais peut-être donner un son contraire. Dès lors que la RDC a adhéré au droit au WADA, le climat des affaires semble aujourd'hui être acquis. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le droit WADA, avec le droit de l'arbitrage de WADA, cela permet justement aux investisseurs de recouvrir ou encore d'être à l'aise. Parce qu'il y a en fait cette l'insécurité juridique et judiciaire qui battait son plein, qui est aujourd'hui, en d'autres termes, garantie par le droit WADA. Et donc, comme sur le plan des textes, il n'y a pas vraiment grand-chose comme problème. Mais le problème, c'est beaucoup plus par rapport aux personnes qui sont censées comment mettre en exécution justement les projets. Parce que il y a même, je crois, sous Kabila, il y a tant de projets, de très bons projets qui ont été initiés par cette personne Kabila. Mais aujourd'hui, ces projets demeurent de l'être mort. Et même aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, qui est jaloux, s'il n'y a pas de bonnes personnes à même de transformer ce projet en action, et bien nous continuerons toujours à revenir sur les mêmes choses. Pourtant, tout a été beaucoup plus solutionné, tant sur le plan juridique, judiciaire, mais aussi sur le plan de moyens, parce que quand les bailleurs de fonds mettent du paquet, eh bien, c'est déjà les moyens qui est disponible. C'est à vous maintenant de l'exécuter. Souvenez-vous, avec les projets de la construction de l'aéroport de Njili, mais les moyens ont été disponibles. Où en sommes-nous? Donc, le problème n'est pas là. C'est vraiment l'homme congolais qui doit changer son mental.
Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian. Vous estimez que dès lors que nous avons adhéré au droit OADA, cela a permis aujourd'hui qu'il y ait quand même une certaine garantie juridique sur les plans des investissements, parce que beaucoup de questions sont réglées par le droit OADA, mais pour vous, vous estimez que c'est déjà un pas sur l'amélioration des climats des affaires, mais de l'autre côté, le grand problème pour vous, c'est une question d'éthique, de volonté, d'arriver vraiment à concrétiser ce qui est fait, parce que si on détourne, cela veut dire qu'il y a des moyens. Merci beaucoup. Divin, vous êtes dans le sud de Ubangi, sur la page Facebook Espérant Jardel Inunga, qui est ici à Kinshasa. Pour lui, il dit que le problème du réalisme se pose au pays par manque de leadership responsable, et cela réduit souvent la confiance de la population à certains, face à certains dirigeants et des institutions du pays, car c'est totalement une honte, non seulement pour les pays, mais aussi pour son peuple, quand il y a plusieurs projets qui sont initiés, mais qui n'ont jamais abouti. C'est le point de vue de Simon Tiloulou, qui est sur la page Facebook, dit ceci. C'est vrai qu'on interdit à personne de rêver et d'avoir des ambitions. Ici, nous sommes dans une situation où les besoins de la population ont déjà été identifiés. Les études de ces besoins ont été déjà faites, voir l'application sur terrain. Les annonces en pompe ont déjà eu lieu. Maintenant, il faut que les mêmes annonceurs éclairent la population sur l'évolution de ces différents dossiers annoncés, des différents projets initiés. Divin, vous êtes dans les Sud-Ubangi. Merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les radiocrates.
On vous écoute, Divin.
Et d'entrée de jeu, je voudrais faire montrer que la RDC est un pays où ses animateurs ne cessent de nourrir son souverain primaire, de promesses en plus de bons projets, et que du reste de l'humain est mis tactiquement. Mais cependant, avant d'énumérer certains éléments qui me font croire qu'il y a un mauvais climat d'affaires en RDC, quelle que soit notre adhésion au traité de l'OADA qui résout en quelque sorte le problème et entrée à l'insécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs. Je voudrais faire remarquer que ce pays s'est caractérisé par un détournement qui a eu lieu domicile, l'insécurité à l'est du pays, qui fait que les infrastructures sont restées défaillantes. Un cadre légal incertain, la corruption, un manque d'ouverture économique et financière de la part du gouvernement reste de frein à l'investissement et la croissance économique en République démocratique du Congo. Je voudrais également faire noter que le ministre de l'Industrie a plusieurs missions dans le cadre de son fonctionnement. Il a également l'industrialisation du pays et l'intégration industrielle. Vous avez l'encadrement de l'installation et de l'implantation des établissements. Il y a nombreux, il y a tant. Moi, je fais allusion ici à la mise en valeur de l'espace national et promotion d'un environnement favorable aux affaires.
Voilà. Alors, parce que là, on est, là, Divin, on est vraiment coincé par les temps. Il faut que l'autre invité puisse conclure cet échange. Vous avez dit, quel que soit le fait qu'on soit aujourd'hui, qu'on ait adhéré à l'OADA pour la sécurité juridique, judiciaire, mais il y a encore des problèmes sérieux pour réussir vraiment les affaires. Il y a, les détournements des deniers publics, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des infrastructures défaillantes, mais il y a aussi la question de l'insécurité. Et vous avez interpellé le ministre de l'Industrie par rapport à la grande mission qu'il a. Alors, je crois qu'on termine par là. On revient à vous, Sylvain Aguenhoff, pour conclure cet échange. On a suivi les uns et les autres. Le souci est exprimé. Il faut la transparence. Vous l'avez déjà dit. Il faut qu'il y ait la concrétisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure cet échange?
Je voudrais saluer rapidement M. Divin du Sidobangui, mais aussi M. Christian Kinshasa, Maître Edmond. Ils ont dit des éléments importants. C'est vrai, il y a tracasserie fiscale, insécurité judiciaire, oui. Par rapport aux investisseurs, il faut y travailler. Mm-hmm. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement congolais pour attirer beaucoup plus d'investisseurs. Mais aussi, la question de la volonté sociopolitique pour faire décoller ce pays, effectivement, c'est important. Quelqu'un a soulevé aussi la question du leadership de l'homme politique. Mm-hmm. Savoir servir et non pas se servir. Puisque c'est là le problème, comme je l'ai dit au début, l'argent, on décaisse 100 milliards de dollars pour construire des logements sociaux pour les Congolais. Mais puisqu'on est un leader négatif, un leader de bas étage, on commence à empocher l'argent. Vous avez suivi le dossier 100 jours devant la justice. Je crois que c'est un cas important pour le Congo pour que nous puissions quand même rassurer nos partenaires qui veulent venir investir chez nous. Mm-hmm. Il faut aussi dire quelque chose par rapport à ce que M. Divin a dit. Je vais peut-être terminer par là. Il faut effectivement mettre en place un beau climat d'affaires pour attirer les investissements puisque nous sommes dans un pays pauvre. Et qu'on a besoin que notre économie soit boostée par des fonds supplémentaires étrangers.
Voilà. Merci beaucoup. Merci Sylvain d'avoir accepté notre invitation et commenté ces sujets au studio de Radio Kapi. Et merci vraiment à tous. Je rappelle encore que nous pouvons continuer à débattre sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Mais ils ne répondent pas.
Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde de ce magazine qui a été réalisé par Kiria Ambatia. Quant à moi, Pierrot Lamedi, je vous retrouve demain et à l'ensemble de toute l'équipe pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir.